J'étais toujours à Vénissieux, moi. Je suis arrivé à Vénissieux avec la ZUP, elle s'est construite avec nous.
Mayday, rencontre.
Je m'appelle Lagdar, tout le monde me connaît, sur la ZUP, de partout. Et certains jeunes m'appellent Lagdar le Lascar, ou Tonton, mais bon. Donc quand on est arrivé, c'était en 67, la ZUP, elle se construisait. Ah non, quand on est rentré, c'était magnifique. Une salle de bain, de l'eau chaude au robinet. Il y avait un confort que personne n'avait connu jusqu'à présent. Pas oublier, nous on faisait chauffer l'eau pour se laver, c'était une autre époque. Il y avait des gens qui venaient de la part Dieu, c'était un peu des gens qui venaient de partout. Ça s'étendait sur toute la région, ça s'étendait vers les tanneries, à l'époque c'était les tanneries, c'était du côté d'Oulin. Il y avait des gens qui venaient de Villeurbanne, et puis bon, il y avait aussi des cités de transit. Il y avait des bidonvilles, que ce soit la Part-Dieu ou avant que la Part-Dieu se construise, c'était plein de cabanes, de brocs et de briques. Hein. C'était voilà, comme vous voyez maintenant les Roumains, sauf qu'avant c'était la population française. Des maisons que certains propriétaires louaient, les vendeurs de sommeil que l'on trouve aujourd'hui, c'était les mêmes. Ils avaient des maisons qui étaient insalubres et tout, mais qu'ils avaient héritées. Et vous louez ça, puisqu'ils savaient que de toute façon vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez ni accéder au logement ni rien. Et dès que les ZUP sont construits, ben c'était fini, ça y est. Enfin, il y avait des logements sociaux, il y avait une qualité de vie. Ah oui, ça a changé tout. Et puis en plus, ils commençaient tous à scolariser leurs enfants.
Moi, je suis arrivé à Montblanc en 75 exactement, mais j'habitais à Saint-Jean-Villeurbanne, juste à côté à Villeurbanne. Je faisais sauter l'école, j'étais au CM2, et pour aller voir la construction de la ZUP de Montblanc, en fait. Moi, je m'appelle Azdine Soltani, j'ai 55 ans, j'habite à Montblanc depuis au moins 20 ans, mais j'ai grandi à Montblanc quand même, et je suis responsable du cinéma Les Amphis à Montblanc. Voilà, et puis je suis militant... dans des centres sociaux, dans des associations locales. Voilà. Il faut savoir que la ZUP de Montblanc, c'est la dernière ZUP de France, en fait. Ça devait être le modèle de la construction, du vivre ensemble, de la ville heureuse, en fait. Donc ça devait être une réussite, normalement, puisqu'ils avaient fait l'analyse des échecs des autres ZUP précédentes. Donc j'arrive à Montblanc en 75. Effectivement, par rapport à Saint-Jean-Villeurbanne, ça ne change pas grand-chose en termes d'habitat. Simplement, je crois qu'on avait un F4 et on a un F5 à ce niveau-là. J'avais fait un calcul comme ça, mais alors c'est entre 75 et 80. Il y avait dans chaque immeuble 4 familles immigrées d'origine maghrébine, on va dire, essentiellement maghrébine. Sur 32 appartements, il y avait 28 familles d'origine européenne. Donc la mixité, à l'époque, c'était la ville était communiste. Moi, j'ai plutôt été avec des anarchistes à l'époque qui s'appelaient l'APAX. En fait, qui était une association aussi qui s'occupait des jeunes de la banlieue, on va dire, mais c'était pas comme on les voit aujourd'hui, en fait. Parce que dans mes potes, il y avait Philippe, François, Vincent, et puis il y avait Mohamed, Asdine, et puis d'autres, quoi. Voilà, c'est très très mélangé. On était... Après, on construisait des cabanes. C'était très bon enfant à l'époque. Hein. Et il y avait un esprit communiste.
Dans les années 75, 80, 85, même milieu des années, jusqu'à fin 90, c'était grave la répression, quoi. C'était post-68ère, ils craignaient à tout prix des nouveaux émeutes, des nouvelles manifestations de masse. Après, il y a eu tellement, c'était exagéré, les incarcérations sans justice, il n'y avait pas de justice, il n'y avait rien. On avait le droit juste de fermer sa gueule et de subir, quoi. Ah, moi, dans les années 80, je faisais pas mal de social auprès des gosses et tout. L'urgence, déjà, c'était de nourrir les familles nombreuses, c'était de les habiller, tout ça. Mais après, voilà, quoi. Après, la jeunesse grandit, ils ont grandi là, et ils ont d'autres besoins, quoi. Et voilà, donc après, il y a eu des mouvements sociaux qui se sont créés. On commençait à prendre les choses en main, à se réunir. Avant, il suffisait que vous ne soyez pas de nationalité française et que vous vous réunissiez pour que vous soyez considéré comme une association de malfaiteurs. Il a fallu que la loi 1901 s'élargisse aux communautés extra-françaises et extra-européennes pour qu'on voie naître des associations de Comoriens, les associations de Vietnamiens, de toute origine. Ça y est, ils avaient le droit de citer. Ah, quoi, en plus, nous, bon, on s'en était au lendemain de toutes les manifs qu'il y a eu pendant la guerre d'Algérie, donc c'était la même police, hein. La même police qui massacrait les gens du FLN a été la même qui a été chargée de s'occuper de leurs enfants. Hein. Malheureusement, ils ont appliqué les mêmes traitements. Nos parents, quand ils nous voyaient sortir, ils priaient. Leur seul souci, c'était d'espérer qu'on rentre vivant, quoi.
Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui mettent actuellement la police en cause?
Je préférerais qu'ils viennent vers moi, qu'ils me disent bonjour. Je leur dirais bonjour, je leur serrerais la main et puis ça irait beaucoup mieux entre nous. Bon, je vous avoue, personnellement, j'ai quand même une petite crainte d'aller me promener au Mas du Taureau tout de suite. J'ai senti dans les reportages que j'ai vus à la télévision une certaine haine du policier. Bon, je me sens un peu visé et c'est vrai que bon, je ne sais pas comment ils vont m'accepter quand ils vont me revoir arriver sur mon îlot. Alors j'espère que ça se passera bien, que je subirai pas des coups ou des choses comme ça.
Et après, dans ces années-là, justement, en même temps, la peur, elle a changé un peu de camp. Parce qu'avec ça, là, on a repris un peu le contrôle de nos vies et on a cessé d'avoir peur. Et donc après, le problème, c'est que là, c'est les gens, ils ont commencé à prendre peur de nous, quoi. Parce que les journalistes, ils ont présenté ça comme étant vraiment un mouvement presque incontrôlable ou quoi que ce soit, alors qu'on avait vraiment des revendications, des aspirations à mieux vivre tous ensemble. Arrêter les lois arbitraires, l'intime conviction d'un policier pouvait permettre d'incarcérer n'importe qui, n'importe comment. Les gardes à vue, vous alliez en garde à vue, vous finissiez automatiquement à l'hôpital. C'était des séances de torture, ni plus ni moins. Arrêter les ventes d'armes dans les grandes surfaces. Vous alliez à Carrefour, il y avait des rayons d'armes en vente libre, il suffisait d'avoir le permis de conduire pour posséder une arme. Et en même temps, changer le rapport police, justice, jeune, et voilà. Et réfléchir vraiment à long terme pour l'avenir professionnel et tout ça, parce que déjà le chômage, on était les seules victimes du chômage. Et pas parce qu'il n'y avait pas de boulot, c'est parce que c'était délibérément, on ne voulait pas nous donner du boulot à nous. Voilà, il y avait une préférence nationale. Il y avait même des affiches à l'époque qu'on s'est battu contre où c'était écrit en petit BBR. Les patrons, ils notifiaient à Pôle emploi, du moins la NPE, BBR, bleu, blanc, rouge. Ça veut dire je veux quelqu'un français, pur souche, soi-disant, parce que nous, on était des Français de seconde zone. Je vous dis, la culture, on pouvait pas sortir, interdit aux arts. On pouvait pas aller dans les écoles qu'on voulait, interdit. On pouvait pas se loger où on voulait, interdit. On pouvait pas occuper les emplois qu'on voulait. On était vraiment... On vivait un apartheid incroyable, mais vrai.
Pour chercher un emploi, par exemple, j'ai un copain qui s'appelait Patrick, qui travaillait chez Essilor. Essilor, c'est ceux qui font les lunettes, en fait, les verres de lunettes, en fait. Ils existent toujours. Hein. Et il me disait, ouais, ils étaient implantés à Vaux. Il me disait, Azine, c'est pas la peine de te présenter, ils embauchent pas d'arabes. Bon. Donc voilà, ça, c'était à l'époque des années 80. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce phénomène est un peu plus aussi, toujours aussi présent, quoi, j'allais dire malheureusement, mais c'est comme ça.
Et à un moment, ça a été trop. À un moment, ça commençait à être récurrent, ça tirait sur les gens. Tous les jours, on avait des victimes mortellement blessées ou mortes carrément dans les rangs des gens comme nous et tout. Et donc, c'était un cri d'alarme. Et voilà, et un jour, ben, ça a démarré, ils ont encerclé une allée, et de là, ça a commencé à partir en émeute. Ça a duré quelques jours. C'était vraiment une bataille rangée. La police d'un côté, les jeunes de l'autre. Dans toute la France, ça n'a jamais été vu. C'était tout, voilà, c'était vraiment une insurrection, c'était trop. C'était devenu un monde invivable pour nous. Après, bon, il arrive un moment, quand vous vous tapez dessus, il y a un moment où vous vous dites, ça peut pas durer comme ça éternellement, quoi. Puisque de toute façon, la force, elle était avec eux, la loi avec eux. Donc, tôt ou tard, c'était où ils nous abattraient les uns après les autres, où il fallait qu'on trouve un compromis et qu'on commence à ouvrir le dialogue. Et c'est là qu'on a tous décidé de descendre. De descendre, c'est-à-dire de quitter le quartier et d'aller s'asseoir devant la mairie et dire que voilà, faut que ça s'arrête comme ça, là on peut pas continuer à se taper dessus les uns les autres, la police d'un côté, les jeunes de l'autre. Faut qu'on trouve un terrain d'entente et faut qu'on nous écoute.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Mayday, reportage.
Vamblin, ça a été un peu comme à Vénissieux, mais ça a été juste sur un quartier en fait qui s'appelle La Grapinière. Les Minguettes, on en parlait beaucoup plus parce que c'était une jupe en fait, et il y avait beaucoup plus d'impact que Vamblin à l'époque. Mais c'était à peu près les mêmes incidents. 80, ouais, Vénissieux c'est 80, 83 la marche des bords pour l'égalité, quoi. C'est pas la marche pour l'égalité des bords, en fait, c'est la marche pour l'égalité des droits, ce qui est une nuance de taille. Ça avait été un épiphénomène parce qu'en fait, en même temps, suite aux émeutes de 82, je parle, 81, je crois, il y a eu la victoire de la gauche. Donc, effectivement, ça avait donné un espoir, effectivement, à la ville de Vamblin. Et puisque le maire était communiste, ça a un peu calmé les gens d'un point de vue de la révolte. Et là commence, effectivement, l'accession à la propriété. Et là, il y avait la prime à l'accession à la propriété, alors, comme on dit, l'aide à la pierre. Et là commençait, j'allais dire, la désertification des banlieues par la classe ouvrière blanche.
On avait commencé par oublier les banlieues.
Archives, IM, Média, 1991.
Tout d'un coup, Vaux-en-Velin dans l'Est lyonnais s'embrase. Cinq nuits durant, les jeunes affrontent la police dans une ZUP, modèle de réhabilitation. Son centre commercial est dévasté. Ces émeutes ramènent à la réalité médias, opinion publique et institutions. Vaux est la principale poche de misère dans la région. La moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté et 70% des jeunes sont au chômage. Or, cette réalité a été occultée par les opérations urbaines de prestige. Et c'est au pied d'une tour d'escalade, symbole même de cette réhabilitation, que meurt Thomas Claudio, renversé par une voiture de police banalisée alors qu'il circulait en moto.
C'est la police qui me l'a tué, la police, pas personne d'autre. C'est la police, madame.
Le policier responsable de la mort de Thomas Claudio bénéficiera d'un non-lieu. Et les embrouilles entre jeunes et policiers continuent de plus belle à Vaux-en-Velin.
Là, ça a été un virement, oui. Les émeutes de 90, ça a été vraiment un virement pour les banlieues, je pense. De Vaux-en-Velin, parce que c'était la première émeute urbaine européenne. Et là, effectivement, les communistes qui résistaient encore à l'époque et restaient à Vaux-en-Velin, ils sont partis. Donc, voilà, quoi. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est devenu la vacance dans les immeubles, dans les apparts. Après, racheté par d'autres personnes qui mettaient en location aux familles les plus pauvres, voilà quoi.
Les gens, ils ont l'habitude que les villes, ça se construit horizontalement. Il y a une rue et puis les gens, ils habitent chacun d'un côté de la rue. Ça veut dire que où ils ont vécu horizontalement, nous on a vécu verticalement. On n'est pas entassés les uns sur les autres. On vit les uns à côté des autres. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'au lieu de dire la première rue à droite, il y a telle famille, après la deuxième, il y a tel machin. Nous, c'était non. Au premier étage, il y a telle famille. L'étage au-dessus, il y a celle-là. Après l'étage au-dessus, il y a celle-là. Hein, comme d'autres diraient, ben tiens, il y a celui qui est vers l'église, l'autre qui est vers la boulangerie. T'as vu le fils de l'autre. Et ben voilà. Et, mais oui, parce qu'en fait, chaque tour, elle représentait un village. Imaginez, il y a 60 familles, je ne sais même pas si au jour d'aujourd'hui, il y a 60 familles nombreuses dans les petits villages de France. Imaginez, vous rentrez, je vous dis, l'allée, c'était la place de l'église. Maintenant, ils ont même fait en sorte que les allées, c'est devenu hors la loi de rester dans l'allée. Seulement dans une tour, maintenant que t'as créé un village vertical. C'est dur à surveiller un village vertical. Comment tu sais qui voit qui parle avec qui? Un village horizontal, tu te mets dans la rue et tu regardes la rue. Mais toi, tu sais pas à quel intérieur les gens y communiquent entre eux, les paliers sont ouverts, telle famille a l'habitude de recevoir telle famille. Donc ils ont commencé à dire, tiens, on va leur détruire les logements, mais toujours sous couvert de bonnes pensées, vous savez. On va faire vivre l'enfer aux gens, mais on va leur présenter avec de bonnes intentions. Et donc ils ont dit, ouais, ces habitations, tatati, c'est incroyable, comment ils peuvent vivre là-dedans, on va les détruire.
C'était la première des trois tours appelée à disparaître du paysage des Minguettes. C'était aussi l'expression la plus spectaculaire de la volonté publique de réhabiliter ce quartier.
Mais c'était au moment de les construire qu'il fallait réfléchir. Pour gagner en temps et en économie d'énergie et de tout, c'était la longueur de la flèche, de la grue qui déterminait l'espace entre les tours. Et en 95, la droite est revenue avec un esprit de revanche. Ça fait qu'elle allait balayer tous les acteurs de terrain, elle allait les balayer d'une manière incroyable. Elle allait faire un raz-de-marée sous prétexte que, soi-disant, c'est nous qui avions maintenu le gouvernement socialiste 14 ans au pouvoir. Et que maintenant, Charles Pasqua étant venu ministre de l'Intérieur, on allait le payer sévèrement. Et là, ils ont commencé à faire la chasse aux associations et tout ça. Hein, qui détricote tous les droits qu'on a gagnés, de toute façon. Et les gens, ils se laissent faire. Et de toute façon, eux, les bourges, ils le savent. Hein. Les classes dirigeantes, elles le savent. Hein. Elles n'ont jamais perdu de vue la lutte de classe. Parce qu'elles savent, c'est leur hantise qu'un jour le peuple se réveille.
Un truc qui me paraît important, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de gardiennage de réserve, effectivement. Alors moi, ce que j'appelle le gardiennage de la réserve, eh ben, c'est les gens qui viennent travailler sur des villes comme les nôtres, c'est dans les banlieues, et qui repartent le soir et qui reviennent le lendemain travailler. Si les Blancs viennent travailler à la mairie, quoi, viennent travailler à la ville de Montblanc et repartent dans leur résidence. Montblanc, c'est la dernière ZUP de France qui a été une ville beaucoup moins industrielle, ouais. Et quand j'ai vu que dans les années 90, c'était devenu une émeute, et que la répartition des richesses ne s'opérait pas comme elle était prévue, effectivement, avec la ville Bonheur, que c'était devenu une ville pauvre et populaire, et qui s'est ghettoisée, qui plus est. Et quand je dis ghettoisée, c'est pas au sens que simplement de la pauvreté, c'est au sens ethniciste du terme. Parce que, par exemple, aujourd'hui, si un Blanc, je dis un Français, chrétien, je dis pas ça par racisme, veut manger une tranche de jambon, il est obligé d'aller au casino, quoi. Il n'y a que casino qui vend du jambon. S'il veut aller dans une boucherie, soit il attend le marché, et encore pas n'importe quel marché, le marché du village. Mais ça, c'est des réalités sociologiques. Alors après, on y met ce qu'on veut derrière. Hein. Je veux dire, effectivement, ça sert effectivement les idéologies racistes et nationalistes. Mais malgré tout, ça reste aussi une forme de sécurité. Quand je parle de réserve, c'est parce qu'on a toujours l'impression de découvrir de l'exotisme dans nos banlieues. Certes, il n'y a plus rien à découvrir, mais effectivement, les gens ils ont tellement peur de ces banlieues, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, hein, pour le coup, là. Simplement, le fantasme est très présent dans la tête des gens, mais il y a plein d'actions qui se passent qui ne sont pas inintéressantes. Des vrais militants de fond, quoi, et pas simplement qu'une histoire de... Moi, je travaille à Montblanc, je suis militante, quoi.
J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, mon âge, pour partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime.